Eh bien, pour cette émission Terre solidaire, nous sommes avec M. Kokolou Kiliou, qui vient du Togo et du village de Yarakabié, qui est au centre de ce pays. Alors, nous avons déjà parlé de l'agriculture de ce pays, et je voudrais que vous nous expliquiez aussi comment vous faites cette action de formation, l'action de formation qui permet les transformations de l'agriculture, l'action de formation qui permet aux femmes de mieux utiliser et d'utiliser les bols, puisque j'ai compris que cela évitait des tricheries, que cela permettait aux paysans d'être maîtres chez eux d'une certaine manière.
D'accord.
Alors c'est quoi cette formation?
Merci.
Il y a des écoles, comment ça se passe?
Oui, merci. Du coup, depuis mon arrivée en France, surtout dans la première région, dans l'Indre, et au niveau de l'Eure-et-Loire, je dis toujours merci au CCFD. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, si ça a réussi à transformer les producteurs et avoir de quoi se nourrir, c'est grâce au CCFD. Parce que presque 80% des financements nous viennent du CCFD. Et qu'est-ce que nous faisons de ce financement? Nous avons recruté un personnel, les animateurs. Et du coup, MAPTO a de nos jours 22 techniciens sur le terrain.
Et des techniciens qui sont paysans eux-mêmes ou ce sont
non, c'est des,
uniquement des techniciens qui
c'est
ont...
Oui, c'est des techniciens qui sont sortis des écoles agronomiques.
D'accord.
Que nous avons recrutés pour nous montrer comment installer peut-être les parcelles. Parce que du coup, le paysan ne sait pas que, bon, dans ce sens, si je mets les billons, l'eau peut emporter. Il y a érosion, il y a quoi. Donc, c'est ce que nous faisons. MAPTO a recruté sur le terrain 14 techniciens. Et les 14 techniciens sont dans chaque région. Donc, il y a 3 techniciens par région. Et ces techniciens sont chargés de dispenser des formations aux producteurs, notamment dans la mise en place des cultures, comment semer et comment récolter, comment gérer les récoltes, tout ça.
Ils sont... Et aussi quelle rotation de culture faire,
voilà,
par exemple.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que j'appelle technique de culture. Comment mettre en place un terrain pour s'enrichir 2 à 3 ans, tout ça, ces techniques-là, les animateurs sont chargés de nous donner ces techniques. Et c'est leur travail. Et à la fin du mois, ils sont payés. Leur salaire nous vient du CCFD. On a un programme avec le CCFD sur l'agroécologie. Et c'est que les engrais nous coûtent très cher. Et
oui.
Du coup, il faut au moins amoindrir les coûts des engrais. Donc, nous avons réfléchi à l'utilisation du compost. Et les techniciens, là, ils sont chargés de passer dans les coopératives. Donc, MAPTO a formé des petites coopératives. Et maintenant, les animateurs passent dans les coopératives. Ils mettent en place les champs-écoles. Et en dehors des champs écoles, ils mettent une fosse où ils montrent comment constituer le compost.
Donc je résume, on a l'association d'un technicien et de paysans, d'agriculteurs,
voilà,
qui sont ensemble, qui voient comment faire un champ école,
voilà,
des fosses à compost aussi,
voilà, voilà,
pour pouvoir mieux fumer, mieux donner ce qu'il faut à la terre pour qu'elle,
voilà,
produise bien.
Merci.
Et puis alors, il y a rotation de culture, mais dites-moi, les paysans savaient faire des choses, j'imagine. Il y avait quand même un savoir-faire paysan qui existait. Ce n'est pas le technicien qui a inventé tout de A,
oui,
jusqu'à Z.
Oui,
parce
qu'il
y avait quand même ses compétences.
Il y avait un savoir-faire paysan, mais qui n'est pas évolué. Parce que le paysan ne savait pas qu'entre 2 billons, il faut une distance de 80 cm. Il ne savait pas aussi que, du coup, entre les 2 plants, il faut une distance de 40 cm. Donc, tout ça, les techniciens nous donnent ces formations-là pour avoir un meilleur rendement.
D'accord.
Pour
donc là,
avoir un meilleur.
Une
sinon,
aide.
Nous, à nos parents, ils ne respectent pas ces techniques.
Oui, d'accord.
Ils le faisaient comme ça et ils n'ont pas un meilleur rendement. Ils se disent que ça ne produit pas. Du coup, quand nous avons entrepris ces formations, on a vu qu'il y a un changement de rendement sur 1 hectare.
Oui, donc du coup, les gens après, naturellement, ils se sont dit, puisque ça marche, c'est mieux,
oui,
on va continuer, on va faire la même chose.
Voilà, c'est bon.
D'accord. Donc ce champ école, en fait, c'est une incitation pour ceux qui voient à côté pour faire la même chose.
Voilà, parce que les champs écoles, là aussi, aujourd'hui, MAPTO a 22 810 membres.
Et oui, c'est beaucoup.
Voilà.
C'est par rapport aux agriculteurs du Togo,
voilà,
c'est pas très grand, le Togo.
Voilà, donc on ne peut pas, nous tous, se mettre en place pour suivre une formation.
Oui.
Là, nous avons formé des coopératives. Et quand il y a une formation, chaque coopérative choisit 2 ou 3 membres qu'on appelle pères formateurs.
D'accord.
Et ils viennent suivre la formation. Au retour, ils restituent la formation aux autres membres de la coopérative.
Ah oui, donc il y a vraiment une formation en
voilà,
chaîne.
C'est pas, c'est ça.
Je me forme, c'est pour moi. Je,
voilà,
me forme, mais c'est aussi pour moi et pour les,
voilà,
autres.
C'est ça.
D'accord. Donc
chaque,
bref,
coopérative voit que tel a un niveau de scolarisation un peu élevé. C'est ces gens-là que la coopérative choisit pour aller suivre la formation. Dès leur retour, eux, ils voient une journée, ils convoquent les membres de la coopérative et ils restituent la formation. Et quelquefois, ils ont un champ en commun que dans la semaine, ils se regroupent Et les pères formateurs utilisent les techniques qu'ils ont reçues des techniciens. Et maintenant, chacun voit que ah, c'est ce qu'il faut faire sur le terrain, c'est ce que je vais faire dans mon champ.
D'accord, donc là, c'est vraiment une formation qui n'est pas théorique sur les livres, pas simplement,
voilà, mais pratique
c'est aussi.
C'est
une formation pratique voilà. Sur place et on en voit les résultats plus ou moins vite.
Vite, oui.
Alors, Mapto, là, fonctionne depuis un certain temps. Est-ce que ces techniques viennent aussi via l'Europe ou est-ce que ce sont des techniques initiées par les gens eux-mêmes sur le pays parce que, finalement, quand même, vous savez très bien faire.
Au fait, quand Mapto organise la formation, nous avons des institutions agricoles aussi chez nous.
Oui.
Notamment, c'est des organisations étatiques.
Oui.
Nous les invitons. Parce que souvent, par exemple, chez nous, il y a une institution que nous appelons ICAT.
Oui.
C'est l'Institut Technique de Conseil et d'Appui. Donc, lui, il vient, il nous donne aussi des conseils. Si le technicien de Mapto a certains manquements, ce n'est pas que nous le faisons seul, c'est que nous impliquons aussi le gouvernement. Quand il y a formation, le gouvernement sait qu'aujourd'hui, Mapto organise telle formation. Si bien que si le technicien sur le terrain ne fait pas bien, il les corrige en même temps aussi.
Donc il y a en fait quelque chose qui se fait en synergie avec les écoles techniques financées par l'État, si j'ose dire,
voilà.
Et puis les paysans sur le terrain.
Voilà.
Ça a été accepté facilement, parce que j'imagine que quand on est paysan dans un village, on n'a peut-être pas envie d'entendre ces changements. Comment ça a été accepté?
Au fait, vous avez raison, au début aussi, ce n'était pas facile. Les gens disaient que c'est des inutilités, mais nous avons essayé de sensibiliser certains dans chaque localité, pour qu'ils puissent comprendre. Au début, si vous voyez, les membres de Mapto qui ont constitué Mapto étaient de 208 membres.
Ah mais oui, en effet, c'était
oui,
pas 200, trop. Et maintenant, 23 000.
23 000, voilà.
Oui,
donc,
ça,
nous avons mis en place cette technique. Maintenant, on a fait de sorte qu'il y ait un membre dans une localité. Quand l'huile change ses conditions de vie, les autres doivent au moins se renseigner, voir comment il fait pour changer ses conditions de vie. C'est ce qui attire les gens et de nos jours, nous allons nous augmentant de jour en jour.
D'accord, donc c'est ce qu'on observe chez les uns, chez les autres, qui voilà. Vraiment provoque l'amélioration. Eh bien, nous allons faire encore une pause musicale.
D'accord.
Et puis, nous allons reprendre pour voir aussi, face au changement climatique,
voilà.
Les changements que vous avez fait intervenir sur cette agriculture qui produit plus, mais aussi qui produit, comment on fait par rapport au soleil, par rapport à la chaleur, par rapport au manque d'eau. Toujours avec M. Kokolou Kiliou qui vient du Togo, nous évoquons les transformations de l'agriculture dans son pays à cause du changement climatique. Alors là, vous avez bien expliqué comment, par l'exemplarité, il y a des choses qui sont faites, il y a un champ qui s'améliore, donc les uns les autres ont envie de profiter de ces progrès. Et il y a quelque chose qui fait boule de neige.
Mmh.
Mais il y a quelque chose qui est venu contredire ces progrès, si j'ose dire, c'est la sécheresse.
Voilà.
Donc, quelles sont les nouvelles orientations de Mapto face justement à la sécheresse et comment vous-même les avez appliquées dans votre ferme?
Au fait, il y a de cela 3 ans, il y a un changement du climat au pays et qu'à la fin, on arrivait à avoir jusqu'à 5 mois de pluie. Mais du coup, il y a de cela 3 ans, il est rare d'avoir 3 mois de pluie. Donc nous, on essaie de mettre en place les formations très tôt. Et on donne les conditions de changement climatique aux paysans pour qu'ils sachent que, ah, s'il y a une petite pluie, il faut qu'ils se mettent en place parce qu'on ne compte pas sur la pluie au Togo maintenant. Donc nous le faisons. Et après aussi, on a entrepris, par exemple cette année, Mapto a recruté un technicien spécialiste sur l'agroforesterie.
Oui.
C'est juste pour nous permettre de mettre en place les forêts. Les plantes, on doit planter les arbres.
Donc, planter des arbres pour cultiver à long?
Non, c'est pas
ça pour... Ça limite l'évaporation? Pourquoi l'agroforesterie?
Ça dit que là, on a constaté que du coup, le changement climatique aussi, c'est dû aux abattages des arbres. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas les arbres, la forêt, il n'y a pas de forêt, donc il n'y a plus de pluie. Donc nous avons entrepris que chaque producteur ait une portion, ou soit nous allons, avec l'entente avec le gouvernement, mettre en place dans certains milieux des forêts pour qu'on puisse constituer une forêt et qui puisse nous apporter de la pluie.
C'est pour et cela. Parce qu'en fait, avons... quand il y a forêt, il y a un microclimat qui amène plus d'humidité.
Voilà. Ça dit que normalement, avant, il y avait les forêts.
Oui.
On a constaté qu'il y avait tellement la pluie. Mais quand les gens ont commencé par abattre les arbres, et c'est là que nous avons aussi commencé.
Et on abattait les arbres pour faire du bois de chauffage ou on abattait
oui,
les arbres pour donner à manger
que,
aux animaux?
Voilà, quand les gens ne trouvaient pas à manger avec la culture, l'agriculture, ils se donnent à l'abattage des arbres pour faire le charbon de bois et aussi les bois de chauffe pour aller vendre, pour pouvoir avoir de l'argent pour se nourrir.
D'accord. Donc c'était... là, il s'agissait de préserver le capital en arbres.
Voilà.
Parce qu'il y a aussi, au nord, j'imagine, les troupeaux transhumants. Comment ça se passe pour eux? Parce qu'il
oui,
n'y a pas d'eau, il n'y a
fait,
plus de...
c'est ça notre problème, parce que les éleveurs nomades des pays du Mali, du Niger, du Burkina Faso, en saison sèche, ils sont chez nous, parce qu'ils n'ont pas d'herbe à brouter avec leurs bêtes. Donc c'est chez nous, ils viennent pour se ravitailler en herbe pour pouvoir alimenter leur élevage. Donc du coup, nous avons senti que parce qu'au Sahel, il n'y a pas d'arbres, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas la pluie. Donc nous aussi, il faut que dans 10 ans, peut-être si on ne plante pas les arbres, l'effet aussi peut arriver au Togo. Et nous avons déjà commencé par sentir l'effet
vers le nord
du Togo. Donc d'accord. C'est ce qui nous pousse maintenant à mettre en place les arbres. Parce que nous avons commencé, c'est ce que vous avez dit au début, vers le sud, il y a des forêts, c'est pourquoi à tout moment, ils ont de la pluie. Donc... c'est ce qui nous pousse à mettre en place les arbres.
Donc agroforesterie, des arbres.
Voilà.
Et des arbres aussi, j'imagine, pas simplement pour le bois, mais aussi des arbres qui fournissent des fruits et qui fournissent...
Oui, par exemple, nous, on entreprend, on donne des conseils aux gens de planter un arbre qui donne des cajous.
D'accord.
Parce que du coup, ils peuvent avoir la forêt de cajous et en même temps, ils ont des cajous à vendre.
D'accord.
Qui sont très chers maintenant à rechercher.
Oui, c'est vrai, puisque voilà. Par ici, même ici... on offre à l'apéritif des noix de cajou quelquefois.
Voilà.
Donc c'est aussi quelque chose qui se
c'est
vend.
C'est ce que nous avons mis en place parce que du coup, quand un paysan met en place un champ de noix de cajou, en moins de 5 ans, il peut commencer par récolter.
D'accord. Donc là aussi, il faut des avances financières.
Voilà.
Et pour ça, vous êtes aidé par l'État, par...
Bon, au fait, pour les noix de cajou, nous avons un projet allemand qui
oui.
a mis en place... et une fédération des producteurs d'Anacard. Et maintenant, les membres de MAPTO essayent de faire partie de cette fédération pour pouvoir bénéficier des Anacard à planter et avoir de l'argent à base des Anacard.
Voilà, donc on plante des anacardiers pour avoir des noix de cajou.
Voilà.
Donc, agroforesterie, cela permet à la fois d'améliorer l'agriculture, d'améliorer l'équilibre hydrique
voilà.
du champ
voilà.
et d'avoir aussi des noix de cajou.
Voilà.
Eh bien, écoutez, notre émission s'achève. Il y aurait plein de choses à dire encore sur votre pays et sur votre agriculture. Merci, monsieur Kokoloukiliou, d'être venu à Radio Grand Ciel
Merci.
Nous parler de votre pays.
Merci.
Et je vous propose aussi, si vous voulez en savoir plus, de lire les revues du CCFD, Fin et Développement Magazine, où vous pouvez retrouver ces expériences relatées.
Merci.
Bonne semaine à tous, au revoir.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, madame.